Maroc. Donc, oui, le premier match est prenable, on a des chances de gagner. Après, ça devient très difficile, mais quand c'est pas un 4-7, quand c'est un match, tout est possible.
Tout est
L'Afrique du
possible,
Sud a gagné contre la Corée du Sud.
ouais. Comme
Le
tu disais
Cap-Vert a fait
tantôt.
match nul contre l'Espagne.
Parce que là, tu parlais du match France-Norvège qui débute genre à l'instant
Oui.
même. Tu sais, nous autres, dans notre tête, la France, c'est faite, là. Ça va être
Oui.
facile, il n'y aura pas de problème, mais y en a-tu dans les gros où on se dit, hey, celui-là, on n'est pas sûr, ou ça va peut-être être un parcours qui va être un petit peu plus difficile?
La Belgique est supposée passer et en ce moment, elle ne passerait pas.
Ah, ouais.
Donc, il va vraiment falloir surveiller la Belgique. Puis dans les belles histoires, je parlais du Cap-Vert, ils pourraient se qualifier aujourd'hui. Ils jouent contre l'Arabie Saoudite, sont allés arracher un match nul contre l'Espagne, contre l'Uruguay. Ils pourraient se qualifier même avec un match nul.
Un minuscule pays, hein?
Ah, c'est magnifique comme histoire, là. Tu sais, le gardien de but, Vosignan, il avait 40 000 abonnés Instagram. Là, il doit être autour de 16 millions, juste avec son match
Il n'y a même pas
contre
6 000
l'Espagne.
personnes au Cap-Vert, là.
T'imagines-tu
C'est
comment
fou,
c'est
là.
ça?
600 000 personnes, pardon.
C'est
Ouais.
sûr que, mais
Ouais.
c'est ça. Il doit connaître. Il va revenir puis il va connaître le prénom d'à peu près tout le monde. Il n'aura pas le choix de faire le tour de l'île au grand complet. Puis la Norvège, c'est ça ce qui fait beaucoup jaser, évidemment. Bon, c'est l'équipe. Tu parlais du fait que très cosmopolitain dans différentes équipes. La Norvège fait partie de cette équipe-là où, au niveau du portrait, ça peut ressembler à un portrait de famille, ou quasiment. Puis le capitaine Martin.
Odegaard.
Odegaard, c'est ça qui fait énormément jaser, lui aussi depuis le début de la Coupe du Monde quand même, donc contre la France, j'ai hâte de voir. C'est Thor qui joue au soccer, là, les filles.
Es-tu
Je sais pas si
sérieux?
vous l'avez
Toute
vu,
l'équipe
là.
joue, toutes des torts.
C'est pas toutes des
Ah
torts, hein, par
ouais, ok,
exemple,
ouais.
mais lui.
C'est pas toutes des torts, mais il y en a. Non, c'est ça. Haaland, là, c'en est un bon exemple.
Ben, c'est ça.
Ce gars-là, il aurait pu probablement être culturiste, tout comme.
Bon, là,
Soldat galactique, là.
on a perdu les deux filles qui sont rendues
On
sur
est
le
allé
même
voir des photos, on
ordinateur
s'excuse.
en ce
Il est
moment.
beau, hein?
Oui, ben c'est pas mal mon soir, moi, je dois dire.
Il paraît bien, mettons. En plus d'être joueur de soccer et multimillionnaire, Antonine,
Oh, ça
sache-le.
m'intéresse pas, moi.
Il
Je suis...
s'appelle Martin Odegaard, avec deux A.
Odegaard.
Odegaard,
C'est
si
vrai qu'ils ont
jamais.
toutes la même mâchoire, hein?
Mais oui, c'est ça. Ils ont l'air, les gars, on dirait qu'ils sont arrivés en ramant.
Oui!
Sur
Exact.
un truc de. Puis
Un
c'est
bateau
eux,
viking, là.
hein, qui ont fait le
Oui,
truc avec
sur
le
un
tambour.
drakkar.
Oui, c'est eux qui ont la célébration là,
Ah,
de
ça, c'est
ramer.
génial.
Ils étaient dans Times Square, ils ont
Oh.
ramé dans Times Square. C'est magnifique, là. Ça, les fans, comme d'habitude, ils sont géniaux, là. T'sais, les Écossais, là, ils font beaucoup jaser. T'sais, les Écossais, ils pouvaient pas boire. Ils ont appris qu'ils pouvaient pas boire de la bière dans la rue. Fait qu'ils ont loué un bateau.
T'es-tu
Ah
sérieux?
oui. Ils ont loué un
Ils ont trouvé
bateau.
une loophole
Oui,
légale, hein?
exact.
D'ailleurs, sur le texto, il y a quelqu'un qui nous a demandé si le Tartan Army était financé par Tourisme Écosse, parce que ça fait une belle pub pour eux autres, là.
C'est clair, ça doit. En tout cas, ils font une méchante belle pub. Eux, ils ont eu plusieurs problèmes de visa là, pour arriver. Il y en a là, qui ne pouvaient pas rentrer. Fait qu'imagine si tout le monde était rentré, à quel point ça aurait été la folie. C'est déjà la folie. Moi, j'ai un ami qui est allé voir le match de la Bosnie. Il est bosniaque. Puis, il restait 20 bières. Puis, les Écossais, ils les ont pris, ces 20 bières-là. Tu sais,
Ah
ils
oui.
font la fête avec tout le monde. C'est assez incroyable.
C'est ça. Je veux juste le faire entendre, la Norvège, je vous en parlais. Et là, l'équipe norvégienne est assise par terre et regardez, le gars, il y a un tambour.
Mais
Et là, ils
voyons.
rament et la foule devant eux fait la même chose, assis dans les bancs du stade. Ils rament en même temps, mais tu sais, écoute, c'est combien de milliers de personnes qui font ça? Pour vrai, si vous n'avez pas vu ces images-là, moi, je les avais vues, c'est ça, sur le compte TikTok du Paris Match. Ça avait été partagé,
Donc, une bonne
mais...
portion de la foule qui a fait le voyage. Là, on s'entend-tu qu'on
Aussi...
n'a pas tant de population norvégienne ici, à part une couple de joueurs de hockey de la Ligue nationale?
C'est capoté, là. Si vous regardez aussi les images des Pays-Bas, les fans des Pays-Bas, ils ont rempli un boulevard. Il était peut-être 40 000.
Ah
C'était
oui.
une vague orange. Ça
Ça,
ressemble
c'était...
à vague orange fédérale il y a
Fédéral,
quelques
ouais, c'est
années.
ça. C'était vraiment génial. C'est ça, je serais curieux de voir le port de Toronto, le nombre de drakkars qui sont
Ouais, c'est ça.
stationnés au moment où on se parle, ne serait-ce que pour l'équipe norvégienne. Mais toujours un plaisir de parler de soccer avec toi. Puis j'espère qu'on aura la chance d'en rediscuter encore parce que on souhaite le meilleur, évidemment, pour le Canada. Mais si jamais le parcours se termine, c'est quand même pas tout de suite. Il nous reste encore au moins deux matchs, de ce que je comprends.
Bien, au Canada, il reste au moins un match.
Au moins un
Mais on
match.
peut s'attendre à le gagner, celui-là.
C'est ça, comme tu disais, parce qu'il est prenable. Puis après ça, ben, on verra pour la prochaine étape. Mais c'est sûr que c'est un effet entonnoir, fait que ça va se resserrer plus on va s'avancer dans le parcours.
C'est un match de dimanche qui est à Los Angeles, hein? De mémoire.
Il est, oui, au SoFi Stadium, Charger Rams. Ouais.
C'est la première fois que le Canada, dans cette année-ci, ne jouera pas devant les partisans canadiens. Je ne sais pas s'il y en a qui vont faire le voyage, s'ils vont se déplacer. Moi, je crois beaucoup à l'énergie de la foule. Là.
Totalement. Et c'est aussi, si je ne me trompe pas, la première fois qu'un pays hôte ne joue pas chez eux.
Ah, vu qu'on est sur trois pays dans le même continent.
Puis... non, c'est assez hot, là. Le Canada, tout ce qui vient, là, c'est du bonus, c'est changer sa frite en poutine, là. T'sais,
Parce qu'on
a déjà eu notre premier point avec le match nul. On a déjà eu notre première victoire. La qualification pour la phase éliminatoire. On a pulvérisé notre record de but qu'on a marqué. Je pense qu'on a aussi pulvérisé le record de buts qu'on a encaissé, tu sais, dans le sens, dans le positif.
Ben dans le positif, parce que c'est des matchs qu'on jouait pas avant, donc c'est sûr que ces buts-là pouvaient pas être marqués. Fait qu'on fait juste cocher des nouveaux records. Chaque fois, on ouvre des nouvelles portes, chaque fois, au fond.
Chaque fois. Et ça, ce qu'on construit aujourd'hui, là, dans 4 ans, j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir. Puis même là, en termes de téléspectateurs, au Canada... Il y a eu 4,1 millions de gens qui ont vu le match Canada-Suisse. Il y a 4 ans, pour le troisième match de groupe, là, il y a eu juste 1,66 millions.
Oh.
C'est une bonne augmentation quand
même. Et la finale en 2022, le match Argentine-France, que c'était, on pouvait voir Messi soulever la coupe pour la première fois, il y a eu 4,8 millions. Fait que là, juste pour recomparer, 4,1 millions pour le match Canada-Suisse. 4,8 millions pour la finale.
Pour la grande finale.
2022.
Ah,
fait que cette effervescence-là, elle existe. Puis je pense qu'elle va construire quelque chose de beau pour les années à venir. Et Québec, avec sa structure maintenant du soccer amateur, on a quelque chose qui commence. Là.
Andy Cerqueira, merci beaucoup. Vous l'avez vu, un gars très sérieux, très professionnel quand c'est le temps, mais un des gars les plus hilarants que je connaisse aussi. Fait que si vous voulez voir l'autre pan, l'autre côté du mini-wheat, ben ça va se passer dans un bar ou dans une soirée d'humour près de chez vous au courant de l'été. Profites-en pour te plugger. Comment on fait justement pour te suivre pour ton horaire estival puisqu'il s'en vient les prochains shows?
Ah, génial! Ben allez suivre Andy Cerqueira si vous trouvez le moyen de savoir comment l'écrire. Mais si je commence à faire des vidéos de contenu web, je viens à la radio vous voir, je fais aussi des spectacles souvent à la Nine Cassie, au Saint-Jean Comedy Club. Suivez-moi et je vais vous aimer de tout mon cœur.
Bon,
et
voilà.
Il va parler de foot après parce qu'il est vraiment contagieux avec sa passion.
Oui, vraiment, vraiment. Fait que c'est sûr qu'on va te revoir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Andy. Toujours le fun de vous lire aussi. Clairement, il y a une fièvre qui s'installe. On peut le lire au 971-1021. Je vous rappelle, c'est votre show à vous aussi. Fait que vous nous écrivez quand vous voulez. On fait une courte pause et on est de retour de l'autre côté. Merci à l'ami et collègue Alex Laramé pour ce Top Corner. Question de faire un petit tour de ce qui se passe dans le sport aussi. Et on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission parce que c'est journée de repêchage dans la Ligue nationale. Donc, il y a énormément de mouvements. C'est un sujet qui a capté notre attention à toute l'équipe, tous les membres de l'équipe ce matin. C'est un article dans le journal qui parlait de propriétaires qui, eux, lèvent la main pour aider les gens qui sont en situation d'itinérance, qui sont sans domicile fixe ou qui sont en loyer ou en logement maintenant, mais qui, là, voient la date butoir du 1er juillet arriver et il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de prochain logis, il n'y a pas de toit sur leur tête. Et Antonine, en faisant quelques recherches, t'es tombé sur deux perles qu'on a la chance d'avoir ici dans la ville de Québec. Nathalie Giguère, qui est directrice générale chez Pêche. Bonjour, merci d'être en studio. Merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Et Marie-Ève Ouellette, qui est coordonnatrice du programme Porte-Clés.
Bonjour.
Bienvenue en studio. Merci aussi de prendre le temps de venir nous expliquer un peu quelles sont vos missions, parce que c'est un article qui parlait principalement de propriétaires du côté de Montréal, qui, eux, lèvent la main en disant « Hey, vous savez, avec ce qui se passe en ce moment puis avec la crise qu'on vit actuellement, nous, on est propriétaires de portes puis on est prêts à donner un coup de main. À partir de là, comment ça fonctionne pour que nous, on soit supportés aussi. » Puis j'étais content d'apprendre aujourd'hui qu'on a ça aussi dans la ville de Québec. Oui. Le programme qui s'appelle Porte-Clés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce programme-là? Parce que Nathalie Giguère, je vous ai présenté comme étant directrice générale.
Adjointe.
adjointe. J'ai oublié de dire le
on
adjointe.
On donne des promotions. Désolé, ben oui, c'est... le directeur général.
C'est vendredi, profitez-en. Oui, les promotions sont là. Mais parce que vous êtes une des instigatrices de ce programme-là, qui est le programme Porte-Clés. Ça consiste en quoi, ce programme-là?
Absolument. En fait, le programme Porte-Clés existe depuis 2015. Depuis 2015, on s'adresse à une population itinérante, chronique et épisodique. En fait, c'est des gens de la rue qui sont là depuis 2, 3, 5, 10, 15 ans dans la rue. Puis notre travail consiste à intégrer les personnes itinérantes en logement, dans des logements stables. Notre seul objectif, c'est d'intégrer les gens qui soient bien, qui soient heureux le plus longtemps possible dans leur logement. Alors, on a depuis 2015, on a intégré 440 personnes en logement depuis 2015.
Okay.
Et la réalité de Québec, c'est qu'on est 8 organismes communautaires qui sont regroupés ensemble pour faire une différence à Québec. 8 organismes qui travaillent en concertation pour faire une différence en itinérance. Puis c'est une solution vraiment intéressante pour les gens, personnes itinérantes à Québec. Un taux de réussite de 85 % quand même depuis le début.
C'est quand même gros, ça, 85 % en 10 ans, 11 ans, presque. Comme coordonnatrice, ton quotidien, ta journée type, Marie-Ève, ça ressemble à quoi? Surtout là, à ce temps-ci de l'année, étant donné qu'on en parlait tantôt, le 1er juillet arrive, là, c'est demain matin, là, on cligne des yeux, puis on est rendu là. Mm-hmm. C'est probablement une période de l'année qui est excessivement débordée pour
vous. C'est sûr que pour nous, puis pour toutes les personnes de l'équipe Porte-Clés, c'est quand même une grosse période là, qu'on a à chaque année qui revient tout le temps. Voyez-vous, cette année, on va intégrer peut-être 10-13 personnes en logement. Mais quand même, dans les derniers mois, à chaque mois, on a plusieurs personnes qu'on intègre en logement tout le temps. Mais là, c'est sûr que la semaine prochaine, c'est ça qu'on fait. Là. On aménage des personnes en logement. On s'assure que les personnes aient tous les meubles dont ils ont besoin quand on va partir, que leur rideau de chambre soit installé, leur base de lit soit montée, que leur vaisselle soit dans leurs armoires pour qu'ils puissent passer la première nuit
ça va
dans
jusque
leur nouveau
là.
Chez eux. Oui, ça va okay. jusque là, ce qu'on fait
Puis
pour les personnes.
Que ce soit un succès. Oui, j'imagine qu'ils reçoivent aussi d'autres services parce que c'est pas parce qu'on trouve un logement que tout est nécessairement réglé du jour au lendemain.
C'est sûr qu'une des particularités aussi du programme Porte-Clés, c'est que ça vient avec un suivi. Fait qu'ils ont accès à des intervenants. Il faut que la personne accepte d'avoir accès à des intervenants, de les laisser entrer chez elle aussi, dans son domicile, dans son intimité. Au début, on voit les gens une fois par semaine, puis on essaie vraiment de prévenir, en fait, de voir les enjeux poindre avant que ça devienne comme trop un gros problème, puis d'aider les personnes à apprendre finalement la vie en logement, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette expérience-là dans leur vie. Là.
Puis là, vous parlez de l'accompagnement après. Mais moi, je suis curieux de savoir le avant, comment ça fonctionne, parce que tu sais, on parlait de pêche, qui est un super organisme aussi. Mm-hmm. J'aime ça parce que vous vous présentez comme étant des réanimateurs.
Réanimeurs
d'espoir.
Oui.
Vous êtes là en soutien psychologique face à des gens, justement, qui vont vivre, comme vous disiez tantôt, là, de façon permanente ou de façon épisodale, des moments où on se retrouve dans la rue. Puis, tu sais, un ami à moi proche m'a déjà dit ça, tu sais, on est à 3 mauvaises décisions, des fois, dans la vie, ou 3 décisions qui sont hors de notre contrôle, malheureusement, de être PDG d'une entreprise, puis finalement se retrouver dans une tente, peut-être, quelque part dans le parc linéaire de la Saint-Charles, ça se peut. Comment on sélectionne ces personnes-là avant? Est-ce que vous travaillez de pair, justement, avec pêche et porte-clés pour dire cet individu-là serait prêt à passer à la prochaine étape?
Mais dans le fond, pêche est un des organismes qui fait partie du programme porte-clés. Tantôt, Nathalie disait qu'on est 8 organismes communautaires. Nous, on fait la coordination. Les références qu'on reçoit, c'est souvent des références qui vont venir des organismes partenaires, mais ça peut être aussi d'autres organismes. Par exemple, je pense à la Coop SAPSA qui accompagne au niveau de la santé physique. Mm-hmm. Des personnes plus marginalisées peuvent aussi nous référer. C'est sûr qu'on reçoit énormément de demandes. Voyez-vous, dans la dernière année, on a reçu peut-être 120 demandes. Okay. On a sélectionné 43 personnes qui sont rentrées en logement. On essaie vraiment de sélectionner au mieux, d'avoir comme un momentum. Là, la personne, il s'est passé quelque chose, elle veut changer sa situation, elle a nommé clairement avoir un désir d'entrer en logement. Des fois aussi, on va privilégier des personnes qui, par exemple, on sait qu'ils ont eu un diagnostic de cancer, le pronostic n'est pas bon, ils sont dans la rue présentement. On va leur offrir un logement pour terminer leur vie dans la dignité. Des femmes victimes de violences conjugales, des jeunes femmes victimes d'exploitation sexuelle. Fait qu'on essaie vraiment d'aider le plus de personnes possible, mais en fonction de, du meilleur timing, dans le fond. Ouais.
Puis, si on est propriétaire, là, on a un logement, je vous écoute parler, c'est quoi le processus et est-ce que les propriétaires peuvent un peu choisir? T'sais, vous parlez de gens qui sont malades, des femmes, est-ce que quand on embarque là-dedans, on doit accepter un peu n'importe qui ou on peut un petit peu choisir?
Ah, c'est une bonne question. En fait, présentement, on a à peu près 100 propriétaires qui sont investis dans le programme Porte-Clés avec nous. Puis c'est des gens qui ont une vocation, qui veulent aider leur prochain. C'est des gens qui ont eu des parcours des fois difficiles puis ils veulent tendre la main à d'autres personnes. C'est des gens qui décident d'avoir une vocation sociale. Puis je vous dirais qu'on a des agents logement. Leur travail, c'est de vraiment faire un bon pairage. Fait qu'il y a une discussion qui est faite avec les propriétaires pour connaître leurs limites. Qu'est-ce qu'ils craignent? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qu'ils veulent pas vivre aussi? On essaie de jumeler un propriétaire et la personne pour vivre une réussite. L'accompagnement est vraiment hyper important. Puis ce qu'on offre aux propriétaires, c'est quelque chose de précieux, c'est de l'accompagnement et du support. Fait que dès le début, nos agents logement sont les personnes ciblées pour quand il arrive une difficulté. Les propriétaires ont quelqu'un sur qui ils peuvent compter pour appeler, pour dire, là, c'est difficile avec la personne, il y a des conflits avec les voisins, il y a des bris dans le logement, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est vraiment un travail d'équipe avec les propriétaires. Sans eux, le projet n'existerait pas. Ça prend des propriétaires qui sont engagés, qui travaillent comme le sport, un trio gagnant. Ouais. Les intervenants, la personne et les propriétaires, c'est ce qui fait le trio gagnant. C'est que les propriétaires, ils sont assurés d'avoir quelqu'un, puis on est là du début à la fin. Des fois, quand il n'y a pas une réussite, ça arrive que les gens perdent leur logement. Je disais 85 % des gens gardent leur logement. Le 15 % bien, on est là jusqu'à la fin. Quand la personne ne peut plus garder son logement, on va aider les propriétaires aussi à vider le logement, à s'assurer de remettre le logement en bon état. On va jusque-là aussi dans le programme Porte-Clés. Fait que c'est ce qui fait une différence. C'est ce qui fait aussi que les propriétaires, quand les gens quittent, ils acceptent qu'on reloue encore les logements pour des personnes en situation d'itinérance. Le fait qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on fasse partie des solutions, c'est vraiment précieux pour les propriétaires.
Puis, on ne se fera pas de cachette que des programmes comme Pêche, comme le programme Porte-Clés, sur lesquels on met l'emphase aujourd'hui, ça prend des sous, ça prend de l'argent pour mettre ça en place. Au niveau monétaire, comment ça va?
Quelle excellente question. En fait, dans la dernière année, on a été chanceux. La Fondation Dufresne-Gauthier et la famille Choquette ont mis beaucoup d'énergie. Le maire Marchand fait des démarches aussi pour avoir des sous. On a été bonifié pour 4 ans de par cette démarche-là qui a permis d'augmenter les sommes. Mais ça en prend d'autres encore. Ça en prend encore suffisamment. Il y a encore beaucoup de gens dans la rue. Puis présentement, quelqu'un dans la rue, ça coûte 72 000 $. Quand on donne une subvention, un accompagnement dans la rue, ça en coûte 22 000.
Alors, le calcul est facile à faire.
Le calcul est facile à faire. Alors, comme société, on va devoir faire des choix. Puis l'itinérance est en augmentation. Puis Marie-Ève, tantôt, on se parlait, puis on se disait, bien, tu sais, la crise du logement, c'est réel à Québec. Puis les gens tombent dans la faille de l'itinérance parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de possibilité de s'intégrer dans un logement. Fait qu'ils se retrouvent à la rue. Puis quand on retombe dans la rue, des problématiques diverses apparaissent. La consommation, la problème de santé mentale, la peur des traumatismes présents qui vivent des choses qui sont difficiles. Sortir de la rue, c'est complexe.
En 2026, très complexe.
Très, très complexe. Ouais. Fait que je vais te laisser parler d'exemples concrets de situations qui sont vécues par notre programme aussi.
Bien, parce qu'on a quand même des réussites. Là. On était dans ce qui était plus difficile, mais il y a quand même des belles réussites dans le programme Porte-Clés. Puis j'avais envie de vous parler peut-être de deux profils types là, qu'on accompagne. Là. Ça me fait penser à, mettons, un jeune qui fréquente présentement des ressources en itinérance quand on l'a rencontré. Donc, il se promenait dans les différents refuges à Québec. Quelqu'un qui a connu des familles d'accueil, le centre jeunesse, là, les refuges, qui fait la porte tournante un peu avec la détention. Mais depuis que cette personne-là rentré en logement, il a pu renouer avec ses parents, avec ses frères, s'est trouvé un emploi. Puis là, on est rendu vraiment ailleurs avec cette personne-là où on parle de qu'est-ce qu'il fait triper puis de quoi il rêve aussi. Fait que là, on l'accompagne dans quelque chose de vraiment différent parce qu'il a réussi à trouver de la sécurité puis de la stabilité qui permet de pouvoir rêver à nouveau.
T'sais. Parce que quand nos besoins de base sont comblés, ben là, on peut se permettre de s'épanouir, de rêver.
C'est comme dans quand on passe de la survie à la vie. Ouais. Fait que là, cette personne-là recommence à vivre, puis retrouver, puis connecter son essence.
Puis, tu nous parles d'un jeune. Est-ce qu'il y a des âges pour qui c'est plus fréquent ou ça peut vraiment être des personnes de tous les âges? Parce que les jeunes, on sait que les jeunes de la DPJ, notamment ceux qui ont fréquenté le système, sont plus à risque après ça d'être en situation d'itinérance. Oui. Est-ce qu'ils sont surreprésentés dans votre programme?
Présentement, je vous dirais que non. Là. C'est sûr que le programme s'adresse à, Nathalie tantôt elle disait, quand on jasait 1800 ans, là, fait que c'est à tout le monde. On avait fait une moyenne d'âge qui était plus autour de, mettons, mi-quarantaine. Là, cette moyenne d'âge-là, elle a un peu diminué. Puis en même temps, on comprend que quand quelqu'un sort, mettons, des centres jeunesse d'un parcours de la DPJ, peut-être que son premier désir en sortant de là, c'est peut-être d'avoir de la liberté aussi pendant un temps, de vivre ses propres expériences.
Parce que ça peut être un peu contraignant aussi. Ben, quand tu embarques dans le programme, tu acceptes d'être encadré.
D'avoir un intervenant, d'avoir un encadrement, d'y donner accès à ton intimité, à ton domicile. Fait que, tu sais, on comprend que peut-être dans les premières années, les gens ont besoin de vivre leurs propres expériences pour après qu'on puisse les aider. Ceci étant dit, il y a un profil aussi qu'on voit maintenant, qu'on voyait peut-être moins avant. Là, je pense... un peu un classique que j'ai rencontré l'automne dernier, d'hommes qui sont justement dans la mi-quarantaine, près de la cinquantaine, qui ont toujours fonctionné. Je pense à une personne en particulier qui avait sa maison avec sa femme, ses loisirs, ses enfants, son auto, son permis de conduire, puis qui a vécu un événement, une rupture, ça a commencé à aller moins bien au travail, a eu une perte d'emploi, a vécu dans sa voiture, perte de permis de conduire, perte de voiture parce qu'il n'est plus capable de la payer, atterri pour une première fois à l'Aube-Rivière à la mi-quarantaine et qui n'est plus capable d'en sortir. Parce qu'on se le disait tantôt, il y a une crise de logement abordable présentement. Des fois, quand tu ne fites pas dans la bonne petite case, c'est dur de recevoir des services aussi. Fait que ces personnes-là, maintenant, là, qui atterrissent pour une première fois à l'Aube-Rivière puis qui, normalement, auraient ce qu'il faudrait pour pouvoir rebondir, puis qui, là, dans le contexte, présentement, ça ne fonctionne plus.
Mais
là.
T'sais, imaginez deux secondes, puis je trouve ça excessivement triste. Mais... je trouve que l'image est forte pour les auditeurs et les auditrices en ce moment de montrer à quel point, quand on vous dit dans les dernières années que le visage de l'itinérance est en train de changer, l'exemple que tu viens de donner, c'est exactement le trois situations ou trois mauvaises décisions ou trois épreuves un peu hors de notre contrôle qui peuvent arriver rapidement. Séparation, perte d'emploi. Puis là, finalement, on se retrouve du côté de l'Aube-Rivière. Puis c'est sûr que c'est des ressources dont on a besoin dans notre ville, mais en même temps, ça aussi, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. C'est sûr que quand on se retrouve dans des endroits comme à l'Aube-Rivière, ça peut arriver qu'on soit rapidement mis dans un contexte où on va côtoyer des gens qui ont des problèmes de toxicomanie aussi, puis là, ben ta vie va pas bien nécessairement. Fait qu'est-ce que... tu sais, tout ça devient un engrenage. C'est un peu ça que je veux dire, sans rentrer trop dans les détails non plus, puis je veux vraiment pas tomber dans le préjugé, c'est pas ça. Mais on le sait que c'est pas simple à ce niveau-là. Ça montre, je trouve, à quel point il n'y a personne qui est à l'abri au moment où on se parle.
Tu sais, quand on peut offrir de la stabilité, cette personne-là, présentement, est retournée, elle aussi, sur le marché du travail, puis ça va bien. En fait, on la voit presque plus, parce que ça va bien, puis parce qu'elle a pu se rétablir, parce qu'elle a eu un logement, puis qu'elle a pu, elle aussi, avoir une stabilité, puis rebondir.
C'est correct de mettre un genou à terre dans la vie. Ça, ça arrive à tout le monde aussi. Mais ça arrive des situations où est-ce que tu mets un genou à terre, puis quand tu essaies de te relever, tu n'es pas capable de le faire toute seule, puis là, tu as besoin d'avoir juste quelqu'un qui va tendre la main, puis qui va t'aider. Puis là, vous pouvez entrer en action, justement, puis redonner, justement, juste le petit coup à cette personne-là pour rebondir, comme tu disais. Il y a beaucoup de textos qui rentrent. Clairement, ça fait réagir que vous soyez en studio avec vous. Aujourd'hui, mesdames, je le rappelle, on est avec Nathalie Gigant, qui est directrice générale adjointe chez Pêche, et Marie-Hélène Ouellette, qui est coordonnatrice du programme Porte-clés, qu'on apprend à découvrir aujourd'hui, qui est un programme, justement, qui aide les gens à retourner en appartement. Content d'apprendre qu'on a des propriétaires à Québec qui décident d'embarquer dans ce projet-là. Mais ça fait tellement jaser qu'on a reçu un beau texto que j'ai envie de vous lire. Félicitations à nos deux invités. Ayant peu de moyens financiers et n'étant pas propriétaire, est-il possible de faire du bénévolat auprès d'eux? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que vous avez besoin de main-d'œuvre aussi?
Bon! Bien, c'est sûr qu'on a besoin d'aide. Des fois, c'est des affaires qui sont peut-être pas sexy, je vais dire ça comme ça, mais tu sais, présentement, tantôt, je parlais, on aide les personnes à s'installer dans le logement.
C'est
on a besoin de bras, des fois.
Déménager, là, installer des rideaux.
Installer, monter des bases de lit, des fois, faire des réparations mineures aussi. On a besoin de ça. Ça peut arriver qu'une personne brise des panneaux d'armoire ou... comment est-ce qu'on peut avoir accès? Fait que oui, on a besoin quand même.
Puis le point de chute à ce moment-là pour entrer en contact avec vous du côté du programme Porte-Clés, est-ce que c'est via le site Internet? Est-ce que c'est de communiquer directement avec vous? À quel endroit on peut avoir vos infos, vos coordonnées?
On peut communiquer directement à l'organisme PECH en demandant de parler à la coordonnatrice du programme Porte-Clés. On peut visiter le site Internet aussi qui est facilement accessible quand on fait une recherche Google, sinon le numéro de téléphone 418-523-2820.
28-20, ça se retient bien. Puis c'est infopêche.org, le site Internet. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin, mesdames, parce que je le sais que c'est peut-être pas un sujet qui est léger pour un vendredi. Comme tu le disais, c'est peut-être pas le sujet qui est le plus sexy, mais en même temps, ça fait partie de notre réalité. Mm-hmm. Puis ça, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y en a pas de vendredi dans des situations comme celle-là. Si je pouvais vous laisser le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs ou aux auditrices de Boulevard qui sont à l'écoute en ce moment?
Écoutez, le programme Porte-Clés, moi, la fierté de ce programme-là, c'est de voir des gens qui ont la honte dans la rue. Puis après un an, comment ces gens-là, ils ont un visage souriant, heureux, confiant, heureux de leur avoir tendu la main, de vivre en appartement, d'avoir d'autonomie, d'être stable. C'est tellement une belle richesse de voir le regard de ces personnes-là. Ça fait ma paye à tous les jours quand je les vois après un an. C'est impressionnant.
C'est vraiment beau d'entendre ça. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour votre temps. Fait que je vous présente à nouveau Nathalie Giguère, directrice adjointe chez PECH, et Marie-Ève Ouellette, qui est coordonnatrice du programme Porte-Clés, le infopêche.org. Si jamais vous êtes propriétaire, vous avez entendu cette entrevue-là, puis vous dites ça me parle, ça, j'aimerais ça, moi aussi, donner un coup de main dans ma ville, faire une différence. Vous êtes un multimillionnaire à l'écoute, vous vous dites j'aimerais ça, moi aussi, être mécène pour un si beau projet.
Oui.
Pourquoi pas? Infopêche.org aussi.
Oui.
Et si vous êtes quelqu'un à l'écoute actuellement, puis vous connaissez quelqu'un dans le besoin qui aurait besoin juste d'une petite tape dans le dos pour rebondir, bien, le programme Porte-Clés existe. Merci vraiment beaucoup, mesdames, pour votre temps. Merci, Antonine, d'avoir trouvé ces deux perles-là. C'est exactement pour ça que je fais de la radio dans la vie, le moment qu'on vient de vivre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir à Boulevard 102.1 aujourd'hui.
Merci. Le retour.
15h39 minutes. Vous êtes à l'écoute de Boulevard 102.1 avec le retour de Boulevard. C'est la formule estivale pour votre retour à la maison. Puis je dis retour à la maison, ça peut être... quand je parle de retour à la maison, ça peut être passer du deck de piscine à l'intérieur de chez vous aussi, si vous êtes en vacances.
Oui, beaucoup de deck de piscine aujourd'hui.
Oh! Ça dépend. C'est une belle petite pergola. Peut-être passer du temps dehors un peu.
Aujourd'hui, toi?
Ben oui, je suis sorti, moi, aujourd'hui.
Pourtant, il y a une fenêtre dans le studio. On voit quand même bien la température. Et même le trafic.
On voit le trafic, on voit les flaques d'un stationnement, mais oui, il y a beaucoup de trafic.
Il y a beaucoup de trafic quand même, ça c'est sûr et certain. Mais tu vois, moi, c'est les grands-parents, mes beaux-parents en fait, qui gardaient les enfants aujourd'hui. Puis là, ils sont allés jouer à l'intérieur, mais ils retournaient justement à la maison des grands-parents pour aller faire une petite guerre de pistolets à eau à l'extérieur. Fait qu'il y a moyen de jouer dehors quand même, si vous le voulez. C'est le genre de journée, par exemple. C'est sûr que là, il n'y a plus beaucoup aujourd'hui. Probablement qu'il y a des endroits qui étaient fermés, mais là, ça semble plus bremassé, là. Ceux qui font du plein air, du hiking, de la course en sentier, du vélo de montagne, quand t'aimes ça jouer dans la bouette, là, c'est
servi.
Vraiment des belles journées, par exemple. Puis on parlait de soccer un peu plus tôt aujourd'hui. Ça aussi, c'est le fun de jouer au soccer quand il pleut. On dirait que tout est au ralenti, là. On dirait que t'es un super-héros, tu sais, un joueur qui pourrait faire la Coupe du monde en ce moment aussi. Juste faire un petit tour de circulation avec vous. Il y a eu un incident sur Henri IV-Sud à la hauteur de l'avenue Industrielle. C'est la voie de droite qui était entravée par un véhicule en panne. C'est terminé, mais clairement, il reste certaines séquelles de tout ça. Sinon, c'est la route 367 Nord à la hauteur du chemin...
La hauteur.
Le chemin du Haut-Fossambeau. C'est la voie de droite qui était bloquée. C'était un accident. Ça aussi, c'est terminé. Mais c'est arrivé il y a plus d'une heure. Mais n'empêche que ça aussi, ça a causé des ralentissements. Sinon, quand je regarde la carte interactive c'est les points de chute habituels, là, je vous dirais. Donc, l'autoroute de la capitale, direction ouest, c'est à partir du boulevard Henri Bourassa jusqu'à l'autoroute Henri IV, direction est, même principe. C'est de l'embranchement d'Henri IV pour se rendre jusqu'à boulevard Henri Bourassa aussi. On est presque même rendu du secteur de Beauport, Bourg-Royal. Sur l'autoroute Robert Bourassa, direction sud aussi, c'est au ralenti de la capitale jusqu'à Charest. Sinon, sur Henri IV, ça se passe quand même bien. Sur un certain tronçon, direction sud jusqu'à l'arrivée des ponts, ça, c'est pas si mal. C'est direction nord en ce moment que c'est plus difficile. Des ponts, là, je vous dirais, jusqu'à la hauteur du boulevard Wilfrid Hamel, c'est au ralenti. Pour gagner les ponts, encore là, direction sud du Plessis, c'est compliqué à partir de Charest. Et sinon, sur la rive sud, ben c'est direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata, où c'est au ralenti. Mais direction est... À moins que vous voyez autre chose, là, petit tronçon où c'est au ralenti un peu avant Taniata, mais par la suite, ça semble vouloir se libérer là, à partir du chemin des îles, entre autres, où c'est plus simple. Sinon, ben, c'est dans le secteur de la Basse-Ville aussi où c'est déjà au ralenti dans ce secteur-là. Là, on parlait, entre autres, tantôt de... comment ça s'appelle déjà, ça? Devant le musée de la civilisation.
Hein? La place des Canotiers, ça?
Dalhousie. Ouais,
Dalhousie. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, bravo. C'est Antonine qui gagne.
Moi, j'aime ça, les quiz.
Tu pourras te reprendre à la prochaine circule, Véro, si tu veux. Donc, Dalhousie, c'est plus difficile en ce moment, mais il y a le Cap Challenge présenté par Sail, dont Laval Volkswagen, d'ailleurs, est le véhicule officiel. On m'a toujours bien les plugué. Des bons clients sur l'antenne. Véhicule officiel de ce triathlon-là en fin de semaine. Donc, il y aura beaucoup d'entraves à la circulation parce qu'évidemment, c'est des parcelles de route qui sont bloquées. Ça fait pas mal le tour dans la circulation, mais si vous voyez quoi que ce soit que je ne vois pas, toujours au 971-1021. On en profite évidemment pour faire un tour de l'actualité.
Ouf,
qui
oui.
N'a pas pris congé en ce vendredi, Véro.
Non, puis elle a même redonné un petit tour de crainte au courant de la dernière demi-heure. D'abord, la SQ qui a confirmé que c'est bel et bien Al Boivin qu'on a arrêté du côté de Marbella en Espagne. Al Boivin, 36 ans, originaire du Saguenay, qui était la personne la plus recherchée, le criminel le plus recherché au Canada depuis plusieurs mois déjà. La SQ qui parle de son arrestation comme étant une étape importante pour la sécurité publique au Québec et pour la lutte contre le crime organisé. Il s'agit du résultat d'un travail d'enquête soutenu, rigoureux et mené sur une longue période par les équipes de la Sûreté du Québec en étroite collaboration avec plusieurs partenaires policiers au Québec, au Canada et à l'international. Parce que bien sûr, vous comprendrez que ça ne se fait pas tout seul comme ça. Le nom vous est peut-être familier. T'sais, on a parlé énormément de Dave Picturmel à Québec parce que c'était un gars de Québec. On parlait de la Blood Family Mafia. On sait qu'il y a une guerre pour le contrôle du territoire sur la drogue qui sévit depuis quelques... On peut parler d'années maintenant par rapport à tout ça. Et lui est un partenaire de Dave Picturmel qui, dans les derniers mois, avec l'arrestation, aurait parti sa propre faction, le North Savage Gang. Depuis plusieurs mois déjà, on le recherchait pour des infractions qui auraient été commises, entre autres, au printemps 2024 dans plusieurs régions du Québec. Il y avait des chefs d'accusation contre lui de gangstérisme, de voies de fait graves, d'enlèvement, de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, en plus d'une série d'introductions par infraction violente. Donc, on confirme la fin de sa cavale. Par contre, comme on a pu le voir avec le cas de Dave Picturmel, c'est pas demain la veille qu'on risque de le voir comparaître à Québec parce que les extraditions, ça peut être terriblement long comme processus. Turmel, c'est au-dessus d'un an qu'il a été arrêté du côté de l'Italie. Puis selon certaines sources, on ne le ramènera pas avant l'année 2027. Fait qu'on peut imaginer la même chose. Ce serait intéressant, mais intéressant. J'ai l'impression que c'est le genre d'organisation que tu coupes une tête puis en pousses deux autres.
Ouais.
C'est qui l'autre qu'on va rechercher? Parce que même si Turmel est en prison, il continue à tirer des ficelles aussi. J'imagine qu'Al Boivin, ça va être la même affaire. Puis il y en a d'autres qui vont essayer de prendre leur place en profitant de ces faiblesses-là, d'avoir un chef en dedans.
Oui, puis je me demande qu'est-ce qui est le plus efficace pour, disons, réduire les activités d'un groupe criminalisé entre s'en prendre à la tête ou faire des grosses opérations où vraiment il y a beaucoup d'arrestations.
Parce qu'on a eu les deux, hein?
Il y a eu les deux, puis le crime organisé... Je pense que c'est comme le genre de phénomène qui disparaîtra pas nécessairement jamais d'une société.
C'est le crime organisé, c'est pour la drogue. La drogue, en grande majorité, est criminalisée encore aujourd'hui. Fait que ça se nourrit, là. Il y a de la demande, il y aura de l'offre. Ouais. Puis,
drogue, prostitution.
Oui, c'est vrai que ça rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans aussi. Mmh. Autre avancée sur un dossier, puis le nom était sorti dans les médias depuis quelques heures déjà, là. C'est en lien avec la mort suspecte d'une femme. Ce corps qui avait été retrouvé en début de semaine, enterré dans le secteur de Lévis à proximité d'une piste cyclable. Le service de police de la Ville de Québec et les enquêteurs du module des crimes contre la personne confirment l'identité de Sushmita Baskaran, 51 ans. Le Journal de Québec avait beaucoup de détails un peu plus tôt aujourd'hui sur la relation qu'elle entretenait avec Martin Carrier, qui actuellement est accusé d'outrage à un cadavre. Là, on n'a pas encore de chef d'accusation de meurtre envers lui. Il a comparu un peu plus tôt cette semaine et est supposé revenir devant la cour le 3 juillet prochain pour sa remise en liberté. Mais vous comprendrez que d'ici ce temps-là, il risque d'y avoir des accusations supplémentaires. Mais c'est une histoire qu'on nous a tellement racontée souvent. Un couple dont la relation semble toxique selon bien des proches. Puis, tu sais, il faut tasser des préjugés, là. Elle est ingénieure, lui est actuaire, elle restait dans un beau quartier. Fait que l'idée de penser que ça arrive juste à certaines castes de la société, je pense que ça donne un coup de pied là-dedans. Là, on va attendre de voir quelles accusations seront portées dans les prochains jours dans ce dossier-là. Il y a encore aussi l'histoire du jeune garçon qui a perdu la vie dans une piscine hier qui fait beaucoup jaser à Québec, là. Certains détails à l'effet que les parents étaient à l'extérieur, que le jeune enfant a échappé à la vue des personnes qui s'occupaient de lui, comme il semblait le faire souvent, entre guillemets. Puis ce seraient les propriétaires d'une maison voisine avec piscine qui l'auraient retrouvé. Il y a une enquête, bien sûr, qui a été ouverte en lien avec tout ça. Du côté du Palais de justice de Québec, un homme qui a été condamné à une peine de 4 ans de pénitencier pour des sévices sur son nouveau-né. En l'espace des 10 premières semaines de vie, là, il l'aurait shaké assez fort pour avoir des lacérations cérébrales, qui sont donc attribuables au syndrome du bébé secoué, et un total de 11 fractures aux côtes, qui seraient liées à des événements violents à différents moments, là, parce que la guérison, on peut voir que ça n'a pas été fait tout au même moment. Lui, semblait-il qu'il était totalement indifférent à tout ça, que quand la mère s'opposait à ça, il disait « un bébé, c'est fait fort ». On parle d'un gars de 38 ans, un militaire de carrière, là, qui s'est retrouvé donc à procès, a été reconnu coupable après 8 jours de ça. Ça va donc en dedans, puis vous comprendrez que ça sera une histoire à suivre parce que du côté de la défense, on a choisi d'appeler de la sentence dans ce dossier-là.
Je ne sais pas comment ces gens-là sont traités en prison. Je me pose vraiment la question, puisque je sais qu'évidemment, les gens qui s'en prennent aux enfants et aux femmes, ils passent souvent des mauvais quarts d'heure, mais quand tu as battu un bébé...
Un bébé naissant?
Naissant, sans défense.
Puis tu sais, à une certaine époque aussi, on isolait ces gens-là aussi, tu sais, les gens qui, quand on parlait de viol, de pédophilie, oh
oui,
de ce genre, ouais, de choses-là.
Tu veux dire, on les isolait quand ils étaient incarcérés.
Quand ils étaient incarcérés, sauf que là, je trouve que la question est doublement pertinente, Antonine, étant donné la problématique de main-d'œuvre qu'on a actuellement avec les agents correctionnels.
Ben oui. Puis souvent la surpopulation carcérale aussi.
En plus.
Mais c'est drôle parce que souvent on suit ces nouvelles judiciaires-là, on a la peine... Et on a le verdict, puis on a la peine. Ouais. Mais on ne suit pas toujours dans quel établissement les gens se retrouvent.
T'as raison, on va le savoir
entre
quand
un minimum,
il y a des gestes qui ont été posés. Mm-hmm.
Un médium puis un maximum, ça donne une idée aussi du niveau de punition que ces gens-là vont avoir.
Effectivement. En terminant, la CAQ a fait d'autres annonces aujourd'hui, puis la plus importante est dans le secteur de Saint-Jérôme. Pourquoi? Parce qu'actuellement, c'est Youri Chassin, ancien député de la CAQ, qui siège comme indépendant, qui était le député qui représente cette circonscription-là. Et on est allé chercher la candidature de Carla Pierre-Paul. C'est une femme qui a été impliquée au municipal. Elle a été conseillère à la ville de Saint-Jérôme. Elle a été mairesse suppléante, présidente d'Assemblée lors de son mandat qui s'est échelonné de 2021 à 2025. On tape aussi beaucoup sur le clou du côté de la CAQ sur le fait qu'elle réside dans la circonscription depuis 7 ans. On a entendu beaucoup de parachutage dans différents partis, mais depuis qu'on a les annonces de la CAQ, là, chaque fois on le mentionne. Reste là depuis tout le temps. Puis je ne sais pas si tu as remarqué, Antonine.
Oui, moins de parachutage un peu. Puis... Mais ça... C'est aussi lié au fait que tu n'as pas de candidature vedette. Je m'explique.
Oui, parce que tu les placerais dans des comtés où ce serait plus facile.
Quand
tu as
une grosse vedette, Des fois, tu fais des petits compromis sur la région, l'endroit d'où ils viennent pour leur donner un compte et sûr. Mais là, vraiment, on a des gens qui sont ancrés dans la communauté. Puis ça va faire la différence pour des électeurs.
Parce que c'est sur le terrain. Mais tu sais, quand tu dis qu'il n'y a pas de candidature vedette, l'autre communiqué de la CAQ qui est rentré, c'était pour nous annoncer en rafale 5 candidatures dans les circonscriptions de Maurice Richard, de Jeanne-Mance Vigé, de Saint-Henri-Sainte-Anne, dans Schlaga-Maisonneuve, puis dans Darcy-Mégui. Fait que quand on envoie un communiqué pour dire « Voici 5 candidatures! »
D'habitude, c'est parce que c'est pas des comtés super prenables pour une formation politique.
Mais encore une fois, on semble avoir pris des gens qui sont intégrés au sein de leur milieu, là, qui sont très, très actifs. Fait qu'on verra en campagne électorale ce que ça donnera aussi.
Oui, puis l'autre candidature qui a été annoncée, c'est dans Prévost. En fait, c'est la ministre actuelle de la Santé, Sonia Bélanger, qui a décidé de se représenter. Puis je pense que c'est important de le dire, parce qu'on le dit beaucoup quand des anciens ministres caquistes annoncent qu'ils ne se représenteront pas. Bien là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas tout le monde qui quitte le navire.
Puis je voyais tantôt un super du côté de LCN, un grand titre, là, où on disait qu'on savait toujours pas, pour ce qui est de François Bonnardel, s'il avait l'intention de se représenter. François Bonnardel avait été exclu du Conseil des ministres, alors que c'était un des seuls remparts qui demeurait encore de l'époque de l'ADQ. Il a retrouvé un poste de ministre sous Christine Fréchette. Je pense qu'en général, il a bien fait, quoi qu'il y a des dossiers sur l'immigration qui étaient dans sa cour, qui a traité à retardement.
Oui, puis il y avait des patates chaudes. Là. C'est ça, il a hérité d'une caisse de patates chaudes.
Oui, pas juste une, il y en avait vraiment, vraiment plusieurs. Lui qui n'a toujours pas annoncé sa décision au moment où on se parle.
Si seulement il avait reçu avec un petit souper fondu, hein? Une petite caisse de patates chaudes de même, ça aurait bien fait. Mais que veux-tu? Finalement, c'est pas ça qui est arrivé.
Je t'aime, Nathan Meilleur.
À ma défense, au début de l'émission, je l'ai dit. Je me considère comme étant choyé de faire de la radio avec vous, avec Véronique Bergeron, avec Antonine Iacarini. Deux grandes dames, vous êtes des têtes, vous avez des réflexes radio extraordinaires, vous êtes d'une pertinence sans nom. Mais, comme dans tout, ça prend un équilibre.
C'est vrai que tu veux nous emprunter de l'argent? Il y a quelqu'un qui soupçonnait ça par texto.
On va t'aider avec tes Renault, Nathan.
Non, même pas. Mais tu sais, je tiens à le dire quand même, parce que pour les auditeurs qui viennent de joindre à nous, c'est important de mettre en contexte aussi, ce trio-là existe depuis hier. On n'avait jamais fait de radio les trois ensemble. Non. C'est un des beaux et des grands avantages qu'on a chez Leclerc Communication d'être plein d'animateurs, animatrices qui tripons sur notre média. On aime ce qu'on fait. Puis on a entendu plein des histoires comme ça dans d'autres stations de radio, que ce soit à Québec, à Montréal, des animateurs, animatrices qui se parlent pas, puis qui se chicanent, puis il y a des guerres d'égo, puis ben, tant mieux, nous autres, chez nous, il n'y a pas ça.
Il n'y a pas
ça. Puis moi, je suis jamais allé jouer ailleurs, fait que je sais pas si c'est vrai ou à quoi ça ressemble ailleurs. Ça m'intéresse pas, c'est pas ma cour, c'est pas mes bébelles. Mais chez nous, on est capable de travailler tout le monde ensemble. Mais en même temps, quand on fait ça, on sait jamais vraiment si ça va marcher tant qu'on l'a pas fait, pour vrai. Puis moi, c'est le feeling que j'ai. Il y a un fit, il y a quelque chose de naturel, ça coule bien. Ça se passe vraiment bien jusqu'à maintenant aussi. Mais je le répète encore une fois, moi, ça fait 7 ans que je fais de la radio dans la vie. J'en fais pas depuis 20 ans, là. J'en fais pas depuis... Je suis pas allé à l'école non plus. Je suis pas allé à ATM à Jonquière. J'ai pas fait le CRTQ. Fait que pour moi, de faire de la radio avec vous, c'est une grande preuve de confiance de la part de mes patrons, mais de votre part à vous aussi de dire « Hein, on va faire de la radio avec ce gars-là? » Ben oui, c'est correct. On se sent assez en confiance pour le faire. Puis je sais pas à quel point vous étiez mal pris. Puis je veux pas le savoir. Parce que pour l'instant, je suis sur mon petit nuage, puis je trippe. Mais je pense quand même qu'on est en mesure actuellement d'offrir une belle émission pour nos auditeurs, nos auditrices, une émission de qualité où encore là, on est dans l'équilibre. On n'a pas le choix de faire le tour de ces nouvelles-là. J'ai fait moins d'interventions dans les dernières minutes parce qu'un show de radio live, ça va vite, puis je suis en train de préparer d'autres choses aussi en parallèle. Mais n'empêche que je trouve ça tough, les nouvelles aujourd'hui.
Ah, elles sont vraiment lourdes. Oui. Les nouvelles sont à l'image de la météo, mais d'un autre côté, c'est tous des dossiers tellement importants.
Oui.
Je me dis, bon, ben, regarde, des fibres dans la vie, ça en prend, fait que ce sera ça. On mangera du fast-food plus tard.
C'est ça. T'sais, on n'a pas le choix de vous les livrer, ces nouvelles-là, puis c'est pas toujours simple de le faire non plus, mais c'est sûr que c'est le début des vacances avec ce qui s'est passé avec ce jeune bambin-là.
Dans le secteur de Montagne des Roches.
Dans le secteur de Montagne des Roches, avec ce militaire-là aussi. Bref, tout ça pour dire que on est là pour vous accompagner. Ça va être comme ça dans les prochaines semaines, toujours de 14h à 18h. Vous pouvez vous fier à nous. Vous pouvez vous appuyer sur nous autres. On va être là avec les points de chute importants. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Quand il y a des nouvelles, on va vous les livrer. Si vous êtes pogné dans la circulation, on est là aussi pour vous accompagner là-dedans. Mais au travers de ça, ben, il y aura un peu de cabotinage, puis il y aura un peu de manque de pertinence. Puis ça, ben, c'est ma tasse de thé à moi. C'est de mon bord de la table que ça va se passer. Puis ça me fait plaisir d'être là pour vous accompagner, puis essayer de vous mettre un sourire dans la face. fasse. Donc, je le rappelle, Véronique Bergeron, Anthony Niacarini, Nathan Meilleur, votre trio. Ce show-là s'appelle Le Retour de Boulevard. Et là, on est rendu à la pause, finalement, Véro. Donc, on va aller à la pause. C'est ce qu'on me fait signe. Fait que, vous voyez, moi, j'étais à l'animation, mais c'est parfait. J'adore ça comme ça parce que j'ai Véronique Bergeron qui est à la régie et qui me remet à l'ordre. Fait qu'on va aller faire
l'expérience.
Une pause. Puis on va revenir dans quelques instants avec la chronique Chaloux, entre autres. Donc, ça va sonner peut-être un petit peu plus vendredi. Donc, bougez pas.